Lecture par Christine Fusarelli d'un extrait du livre de Sylvain Tesson qui s'appelle La Panthère des Neiges. Extrait numéro 20. Nous avions passé 10 jours dans le canyon des Panthères. Meunier désirait à présent partir photographier les sources du Mékong. On roula une journée vers un campement d'éleveurs au pied d'un relèvement. Le plateau était un bouclier de steppe frappé sauvagement par le soleil. Vers le nord, des sommets blancs pointaient. Un couple de propriétaires de yaks hivernait dans une baraque de tôle surchauffée, île en plein vide. 100 yaks arrachaient à la steppe les herbes anémiées par l'hiver. Le lendemain, à 4 heures du matin, nous quittions le poêle et marchions sur un ruban dont les cartes certifiaient qu'il s'agissait du Mékong. Monté 4 heures, à 5100 mètres, il y a un cirque et la source, nous avait dit Cétrine, le gardien. C'était donc cela, le fleuve des 9 dragons, un ruisseau gelé. La glace craquait. Nous allions sur la Nougatine comme des curistes précautionneux sur un canal glacé de Baden-Baden. Nous croisâmes une carcasse de yak toilettée par des charognards. Les oiseaux déchiraient la viande, décollaient, se rabattaient. Jusqu'ici, j'avais toujours trouvé spectaculaire la dévoration des morts en vue de leur réincorporation. Mais ces coups rougis et ces furies de plumes atténuèrent mon envie qu'on forjeta un jour mon corps au vautour. Quand on a vu une fois les oiseaux devenir fous de sang, on se dit que, finalement, un carré de chrysanthème dans un cimetière des Yvelines a son charme. Lentement, je me forçais d'y croire. C'était le Mékong, le fleuve des larmes khmères, de la nostalgie jaune, des 317e sections et du Bouddha vivant, des apsaras graciles et des fleurs de lotus. Un ruisselet couleur de lune, encore vierge de tout crachat. À 5100 mètres, nous trouvâmes la stèle dont les idéogrammes chinois annonçaient probablement la naissance du fleuve. Ici, dans un amphithéâtre de roches, sourdait l'alpha de la civilisation du riz, chapeauté d'un ciel gris. Sur près de 5000 km de distance, le Mékong traverserait le Tibet, la Chine, l'Indochine, jusqu'au delta où Marguerite eut un amant. D'aventure privée en ouvrage public, les eaux baigneraient les travaux et les jours, il y aurait des batailles. La source d'un grand fleuve recèle la question de l'Orient. Pourquoi toute source doit-elle se ramifier? Pourquoi la séparation? Pour l'instant, une nappe gelée cimentait des graviers. C'était la source, le Tao du Mékong, point zéro, futur roman. L'écoulement s'unifierait ouvrant la voie dans la montagne. La douceur de l'air libérerait le débit, le filet se chargerait de vie. D'abord des animalcules, puis des poissons de plus en plus voraces. Le fleuve pousserait. Un pêcheur y jetterait son filet, des villageois s'y abreuveraient, une usine verserait ses saletés. Chez les hommes, tout finit dans un collecteur. L'altitude baisserait, l'orge pousserait, plus bas le thé, le blé, le riz enfin, et des fruits un jour au bout des branches. Des buffles se baigneraient, parfois un léopard croquerait un enfant dans les roseaux. On se consolerait vite, il en naissait beaucoup. On descendrait encore, des femmes puiseraient chaque jour une eau déjà chargée de bactéries, on commencerait à canaliser le lit. Les peaux fonceraient, les filles sécheraient des draps oranges sur les quais de pierre taillée et des adolescents plongeraient des tourelles, puis le courant ralentirait, les méandres se distendraient dans leurs propres alluvions, le fleuve rehausserait sa digue, l'horizon s'ouvrirait et ce serait la plaine irriguée, éclairée par les centrales de l'amont. Pendant les jours de marché, des barges se toucheraient bord à bord, des serpents nageraient entre les cadavres à demi calcinés et les états se disputeraient les rives devenues frontières. Les patrouilles intercepteraient les passeurs, les affaires suivraient leur cours et enfin les eaux se mêleraient à la mer. Des touristes tout blancs nageraient dans les vagues. Sauraient-ils seulement que des panthères avaient un jour lapé ces eaux, du temps où elles appartenaient au ciel ? Le destin prenait naissance ici. Les bêtes traquées par Meunier étaient nées d'une source elles aussi. Elles s'étaient séparées. La panthère des neiges procédait d'une ramification vieille de 5 millions d'années. Si la vie sur Terre était comparée à un fleuve, elle avait eu sa source, son lit, ses bras morts. Sa course n'était pas finie. Nul ne connaissait le delta. Nous autres humains étions sortis d'une subdivision fort récente. Dans les planches des livres de biologie de mon enfance, on représentait les embranchements de l'évolution par des graphiques en forme d'estuaires fluviaux. Toute source ignore de quoi elle est capable. Sur les graviers pendant une heure, puis redescendîmes en glissant. Meunier cherchait une bête. Pour lui, un paysage vide était un caveau. Heureusement, à 4800 mètres, un loup se roulait dans un névé. Meunier fut content. Au campement où nous racontâmes la rencontre du loup, le berger nous renseigna sur les visites annuelles. Une ou deux panthères dans l'hiver et des loups tous les jours. Ce disant, il bourra tellement le poil que nous nous endormîmes. Le sommeil emporta la vision de la source. Demain pour un 21e extrait.